Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula Mbombo.
À la une de ce journal, clôture ce lundi de la réception des candidatures pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, Jean-Claude Tshilumbai et Jacques Ndjoli ont déposé leur candidature unique au poste de président, premier vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale. Toutefois, toutes les autres candidatures désignées par les présidiums de l'Union sacrée sont en opposition avec les choix des votants. Au Kasaï oriental, spoliation du terrain de l'école secondaire technique générale de la Kanchi par les autochtones appelés Bakwanga. Les élèves de cet établissement réclament justice. Pour sa part, le président chargé du lotissement Mitembele, qui qualifie d'instrumentalisation des élèves par leurs autorités, déclare que cette affaire est déjà tranchée par la justice en faveur des autochtones. L'invité de ce journal est Denis Tukuzi, directeur provincial de la SNEL Kinshasa. Il nous parle des perturbations observées actuellement dans la fourniture du courant électrique, ce dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, nous apprenons que ce lundi, aux environs des 13 heures locales, des bombes sont tombées dans la cité de Minova, dans les territoires des Calais et provinces du Sud Kivu. Selon le président du cadre des concertations de la société civile de la région qui livre cette information, ces engins provenaient de la zone occupée par le M23 dans les Massissi au Nord Kivu. La même source précise que deux bombes sont tombées à Kitalaga, deux autres à Rudahuba et une bombe à Kiata. Deux personnes sont mortes, dont une femme de 48 ans et son petit-fils de 8 ans. Au Nord Kivu, pendant ces temps, des violents combats ont opposé toute la journée de ce lundi les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais au FRDC et leurs alliés locaux dans plusieurs localités du territoire de Massissi. En plus des conséquences humanitaires, ces combats affectent les activités scolaires, déplore le président de la jeunesse Tembo du Nord Kivu. Il parle notamment des élèves finalistes du secondaire dont la passation des épreuves préliminaires des examens d'État est perturbée. Pendant ce temps, en Ituri, l'insécurité a atteint son paroxysme pendant la période de l'état de siège avec plus de 2000 personnes tuées et plusieurs dégâts matériels enregistrés. C'est le constat fait par les coordinateurs de la société civile Force Vive à l'occasion du 3e anniversaire de cette mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État pour imposer la paix à l'est de la RDC. Cette structure plaide pour la levée pure et simple de l'état de siège et le retour à l'ordre institutionnel. Isaac Remoyopé.
Dans son rapport rendu public ce lundi, après une assemblée générale tenue le vendredi dernier, la société civile dresse un bilan négatif de l'état des sièges, caractérisé par l'intensification des atrocités des groupes armés qui ont entraîné plus de 2000 morts. Son président cite les cas les plus récents, dont les kidnappings de 15 civils le week-end dernier vers Kilo par la milice Codeco qui seraient tous tués, mais aussi les meurtres d'une dizaine d'autres en février enterrés vivants vers Tali. Et pourtant, cette mesure avait suscité beaucoup d'espoir à la population de cette province qui a apporté son soutien au gouvernement militaires au FRDC engagés au front contre les groupes armés. Son président réitère les recommandations de la table ronde tenue à Kinshasa pour la levée de cette mesure par les chefs de l'État, Dieudonné Lossa.
La situation sécuritaire est restée tendue malgré les efforts tant local, national et régional. Les violences meurtrières vécues à Ituri à nos jours ont atteint alors le paroxysme jusqu'à enterrer vivant 15 personnes. Voici un bilan provisoire enregistré pendant 3 années, 2144 personnes massacrées.
La société civile de l'Ituri note cependant certaines réalisations pendant la période de l'état des sièges, notamment la modernisation d'une dizaine de kilomètres de la voirie urbaine grâce au financement du gouvernement central et la construction de certaines infrastructures publiques. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, clôture ce lundi des réceptions des candidatures à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, Jean-Claude Tshilumbai et Jacques Ndjoli ont déposé leur candidature unique au poste de président, premier vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale. Toutes les autres candidatures désignées par le présidium de l'Union sacrée sont en opposition avec d'autres déposées notamment à la deuxième vice-présidence au poste des rapporteurs adjoints ainsi qu'à la questure et à la questure adjointe. Michel Kifindangoy. Voilà, on nous signale que cet élément n'est pas disponible pour l'instant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous venons tout juste de l'apprendre. Ngoï Kassange vient lui aussi de déposer sa candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, court-circuitant ainsi celle de l'UDPS. Pendant ce temps, à la Chambre haute du Parlement, nous apprenons que les sénateurs nouvellement élus sont convoqués à la session inaugurale ce mardi. Conformément à l'article 114 de la Constitution, les sénateurs se réunissent de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats provisoires. Ainsi, au cours de la plénière inaugurale de ce mardi, le secrétaire général du Sénat mettra en place un bureau provisoire qui sera dirigé par les doyens d'âge assistés des deux plus jeunes. Ce bureau aura pour mission de valider les pouvoirs des sénateurs, élaborer et adopter les règlements intérieurs de la Chambre et organiser l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Au Kasaï oriental, pas de cours ce lundi à l'école secondaire générale et technique de la Kanchi. Les élèves de cette institution technique ont été dans les rues et ont passé plusieurs heures devant les gouvernorats des provinces. Ils s'insurgent contre la spoliation du terrain de l'école par les autochtones appelés Bakwanga. Le président chargé du lotissement Mitembele déplore l'instrumentalisation des élèves par leurs autorités scolaires dans une affaire tranchée par la justice en faveur des autochtones. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les élèves de SGTK n'ont pas étudié ce lundi. Ils ont organisé une marche avec comme point de départ leur école pour chuter au gouvernorat des provinces où ils ont passé plusieurs heures. Avec des calicots en main, ces élèves s'insurgent contre la spoliation du terrain de l'école par les autochtones appelés Bakwanga. Explication de Miradi Mambambia, élève de 5e électronique.
Dans notre école, il y a un lotissement qui s'est fait. Les Bakwanga sont en train de ravir des terrains pour construire. Ils veulent aussi entrer dans notre cours scolaire. Et pendant les heures de cours, vous voyez beaucoup de gens se sont attroupés dehors. On n'est pas concentré avec ça.
Contacté, Sami Mwamba, président du lotissement Mintembele, rejette ces allégations. Il parle plutôt de l'instrumentalisation des élèves dans une affaire qui l'oppose à l'AMIBA et dont le verdict rendu par la justice est en faveur des autochtones.
La portion des terres, là où il y a l'école, on n'a rien spolié. Les enfants sont vraiment excités. Si les agents de l'AMIBA se voient léser de leurs droits, ils doivent aller à la justice. Mais pourquoi prendre les enfants d'autrui pour qu'ils s'enfrontent avec la population autochtone? Non, on ne peut pas accepter ça. Nous, Bakwanga, nous sommes un peuple hospitalier.
Signalons que plusieurs autres endroits de la cité Miba ont également été lotis ces deux dernières années par les autochtones. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Direction Kasaï Central, les réseaux des organisations non gouvernementales des droits de l'homme Reprodoc s'est dit préoccupé par les conditions de détention dans les prisons en province. À travers une note de plaidoyer faite à la suite des monitorings dans différents établissements pénitentiaires, cette plateforme relève que ces lieux sont dans un état de délabrement très avancé. Accueillant les doubles de la population carcérale prévue, ils n'ont pas également des installations sanitaires adéquates. Déplorant les conséquences liées à la santé des personnes détenues, les coordonnateurs provinciaux des Reprodoc appellent l'État à améliorer les conditions de détention dans ces différents endroits de privation de liberté. Parlons de ces difficultés de transport dont se plaignent beaucoup des Quinois usagers des transports en commun. C'est notamment la hausse unilatérale des prix des courses par les conducteurs et aussi la pratique dite des demi-terrains qui consiste à sectionner les trajets en faisant payer un peu plus. Une course de 1000 francs peut aujourd'hui aller jusqu'à 2000 francs et plus, surtout si c'est pendant les heures de pointe. Alphan Poissa nous décrit la situation dans ses reportages.
Les usagers de transport en commun se plaignent de dépenser plus, surtout avec le demi-terrain.
Le gouvernement provincial n'a même pas fixé les prix, le coût des transports. Parce que le gouvernement qui dirige tout, qui nous conduit, c'est lui aussi est censé de fixer les prix des transports. Chacun fait ce qu'il veut. Tu quittes le rond-point magasin à 16h pour arriver à Lupin. Donc tu taxes 5 000 francs pour voler. Et 5 000 francs sur base de quoi? C'est parce que l'État n'a pas fixé.
Les chauffeurs expliquent et autres taximens moto expliquent leur motivation.
Je fais la ligne Matete ISC. Nous procédons au système des demi-terrains souvent lorsqu'il y a embouteillage. Raison pour laquelle vous voyez les chauffeurs faire ces demi-terrains pour ne pas perdre du temps.
Pour sa part, Jean Mutombo, un des responsables de l'ASECO, Association de chauffeurs du Congo, appelle le conducteur au respect de normes en la matière.
Le tarif de transport est réglementé par l'arrêté tarifaire de la ville de province de Kinshasa des transports, bien sûr, qui se réunissent au cours d'une commission tarifaire. Donc, les conducteurs, eux, d'eux-mêmes n'ont pas qualité à fixer les prix de transport de leur propre gré. Cela, ça s'appelle le tarif illicite, qui est d'ailleurs combattu par la division urbaine des transports.
Au ministère provincial de transport à Kinshasa, on s'insurge aussi contre ces deux pratiques. On précise que la commission tarifaire qui réunit différents acteurs du secteur ne revoit les prix de la course à la hausse que si l'augmentation du carburant atteint le seuil des 10%.
Et puis, bientôt, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa seront à nouveau desservis en courant électrique. C'est Denis Tukuzi, directeur provincial de la SNEL Kinshasa, qui l'annonce dans une interview exclusive accordée à la radio Capi ce lundi. C'est au cadre de la SNEL parle de la normalisation de la situation d'ici le 15 mai, étant donné que les travaux sur les déficits engendrés par les arrêts des groupes G23 et F27 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 sont arrivés à terme. Denis Tukuzi est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Oui, effectivement, si je parle que c'est juste pour un devoir de redevabilité, ces travaux sont presque finis et ce que le client de Kinshasa doit s'attendre, c'est à la reprise effective de la normalisation. Comme les travaux sont terminés, cette reprise de la normalisation va se faire progressivement et je crois que tout au plus, au plus tard les 15, la situation va redevenir comme elle a été avant.
Si vous dites que la situation va redevenir à la normale, qu'est-ce qui change pour la population avec ces travaux?
Pour la population, ce qui change, c'est pratiquement l'amélioration de la desserte. C'est-à-dire maintenant, nous avons atteint un seuil de délestage critique parce que la gêne est perspective presque dans une majorité de l'étendue de la ville. Donc, avec la fin de ces travaux, nous allons améliorer le seuil de délestage. C'est-à-dire, le délestage ne disparaîtra pas, mais le délestage va revenir au seuil 1. C'est-à-dire, la gêne sera beaucoup plus réduite et la desserte sera améliorée.
Dans la province du Maniema, les présidents du syndicat national des cadres et agents des secteurs de services Syncas Maniema plaident pour la scission du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Ami Sisselemani justifie sa demande par le fait que, selon lui, la marginalisation dont sont victimes les non-médecins, surtout l'infirmier congolais par rapport aux médecins dans ces secteurs. On l'écoute, il explique au micro de Florence Kizalunga.
Suite de l'injustice et inégalité sociale faite par le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, ainsi que suite de la marginalisation faite aux infirmiers congolais, monsieur le président de la République, Tuhaza Buhulu Ano Bimpa Bioso, nous demandons indépendance totale et immédiate de nous les non-médecins congolais. C'est-à-dire, nous demandons la scission dans notre ministère de la Santé publique. Les médecins auront leur ministère qui sera appelé ministère des biologistes médicaux et le nôtre qui sera baptisé au nom de ministère de sauvegarde des vies humaines. Donc, la bipolarisation vient de naître dans le domaine de la santé publique. Par exemple, pour l'enseignement, il y a enseignement primaire, secondaire, professionnel et enseignement supérieur universitaire. Donc, il y a deux ministères différents pour l'enseignement. S'il n'y aura pas faisabilité, monsieur le président de la République, prière d'ordonner au futur ministre des budgets l'application stricte de l'ordonnance loi numéro 90/048 du 29 avril 1990 portant fixation d'équivalence et correspondance des grades, c'est-à-dire même prime de risque, même grade, même salaire.
Actualité internationale.
En Guinée, le procès du 28 septembre a repris ce 13 mai 2024 après 3 semaines de pause. La justice du pays est en train de juger les 11 responsables présumés de la répression d'un meeting de l'opposition qui a fait plus de 150 morts le 28 septembre 2009. Place aux plaidoiries et aux réquisitions depuis ce lundi matin, le procès est entré dans sa dernière ligne droite avant les verdicts qui devraient intervenir d'ici le mois d'août.
L'invité.
Notre invité, c'est Denis Tukuzi, directeur provincial de la SNEL Kinshasa. Dans une interview accordée à Radio Kapi, il parle des perturbations observées dans la majorité des quartiers de la ville de Kinshasa qui sont consécutives aux déficits engendrés par les arrêts des groupes G23 et F27 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Il rassure par ailleurs les clients concernés de la normalisation progressive des dessertes en électricité étant donné que ces travaux sont presque terminés. Denis Tukuzi est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Bonjour messieurs les directeurs.
Bonjour.
Les habitants de Kinshasa se plaignent de la SNEL. Le délestage est toujours aussi accru alors que vous la rassuriez il y a quelques semaines que les travaux à la base de cette situation étaient presque à la fin à Inga 2. À quoi doit-elle s'attendre encore?
Oui, effectivement, si je suis venu, c'est juste pour un devoir de redevabilité. Ces travaux sont presque finis et ce que le client de Kinshasa doit s'attendre, c'est à la reprise effective de la normalisation. Comme les travaux sont terminés, cette reprise de la normalisation va se faire progressivement. Et je crois que tout au plus tard les 15, la situation va redevenir comme elle a été avant.
Si vous dites que la situation va redevenir à la normale, qu'est-ce qui change pour la population avec ces travaux?
Pour la population, ce qui change, c'est pratiquement l'amélioration de la desserte. C'est-à-dire maintenant, nous avons atteint un seuil de délestage critique parce que la gêne est perspective presque dans une majorité de l'étendue de la ville. Donc, avec la fin de ces travaux, nous allons améliorer le seuil de délestage. C'est-à-dire, le délestage ne disparaîtra pas, mais le délestage va revenir au seuil 1. C'est-à-dire, la gêne sera beaucoup plus réduite et la desserte sera améliorée.
Là, vous parlez de tous les quartiers de la ville de Kinshasa.
Hein? Exactement.
Oui, mais dans d'autres quartiers, il y a plutôt le problème de câbles qui sont vétustes, donc ça demande vraiment des travaux dans les quartiers-là. Ça ne concerne même pas les travaux à Inga 2. Comment comptez-vous alors remédier ou desservir ces habitants-là qui ont souffert pendant plusieurs mois, n'ont pas de courant électrique?
Oui, effectivement, et en dehors de ce qui concerne Inga, on a un problème de distribution des réseaux de distribution qui est pratiquement un peu vétuste. Et en cela, on commence déjà à recevoir le premier lot de matériel, notamment des câbles. Et là, nous allons entamer dans le mois prochain les vrais travaux d'assainissement. Parce qu'il y a des endroits où carrément il faut tout démanteler et les remplacer. Mais entre-temps, la maintenance quotidienne fait son jour, continue son bon chemin. Là où il y a des pannes, lorsqu'on nous signale, nous descendons et nous intervenons.
Et la population se plaint aussi. Il y a ce problème de délestage. Il n'y a presque pas du courant. Mais il y a toujours l'augmentation à la facturation. La facture augmente toujours alors qu'il n'y a pas assez du courant.
Oui, la solution à ces problèmes est d'abord une solution pérenne est le placement des compteurs après paiement. Donc pratiquement, les travaux de placement des compteurs se font, notamment dans la commune de Makala, et vont se poursuivre jusque pour cette année et l'année prochaine à l'installation totale de plus ou moins 600 000 compteurs après paiement. Et là, nous serons conformes à la loi. Et la gestion des consommations sera responsable par les consommateurs ou les clients.
Voilà, est-ce que vous avez un message fort à lancer aux Kinois qui n'ont que trop souffert de cette affaire du manque d'électricité ou des délestages à souhait?
Le message est le message d'assurance. Nous rassurons à notre clientèle que ce n'est pas fatal. Donc la SNEL et son équipe sont à pied d'œuvre pour l'amélioration quotidienne de la situation de la desserte. Parce que vous savez que la SNEL est confrontée à plusieurs problèmes. Et dans les jours qui suivent, le directeur général passera et il accordera un grand interview aux hommes de la presse pour essayer de faire la péripétie sur l'ensemble des problèmes de la SNEL. Quant à ces, tout a été mis en marche et la SNEL veille et continue à travailler pour le vécu quotidien de la population. Nous sommes conscients, la tâche est grande, mais nous ne nous laissons pas faire. Nous sommes à pied d'œuvre et nous sommes en train de travailler.
Denis Tukuzu, directeur provincial de la SNEL Kinshasa, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'actualité sur Radio Kapi, mise en onde par Billy Landry Betou, sous la supervision et coordination des Pele Kipela Mondo, Vicky Odiambala et Jean-Désiré Kanyama. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Madame, Messieurs, merci de votre sympathique attention.